Je croyais que vous partiez, non? Alors, Edouard, un mot sur la grande loge mixte de France, d'abord. Puis, comme toujours, on reviendra au thème après.
Oui, bonsoir. La grande loge mixte de France, c'est une fédération de loges, 230 loges environ, composée d'hommes et de femmes, c'est-à-dire de sœurs et de frères. À peu près dans la parité, nous sommes donc 230 loges et 5000 membres. 52% de sœurs, 48% de frères, sensiblement. C'est une obédience jeune, puisqu'elle est née en 1982, le 18 décembre 1982, donc qui fête un petit peu plus que ses 30 ans, qui les a célébrés il n'y a pas si longtemps. Et c'est une obédience qui forcément, alors on n'en tire pas nécessairement une gloire, mais puisqu'elle est jeune, sa moyenne d'âge est sensiblement... inférieure à la moyenne d'âge qui vous a été présentée. C'est-à-dire que notre moyenne d'âge est aux alentours de 50 ans. Pour autant, il ne faut pas nourrir d'illusions, nous sommes confrontés exactement au même problème que nos obédiences amies qui sont ici. Donc nous avons, sans surprise, les mêmes réflexions. L'autre particularité de la Grande Loge Mixte de France, c'est que nous travaillons à de multiples rites, ça a déjà été évoqué par Christophe pour le Grand Orient. Et cette multiplicité des rites, pour nous, c'est un gage de diversité et d'équilibre. Parce que je vais revenir là-dedans, sur ce point en tout cas, pourquoi une vision d'avenir, c'est par la recherche d'équilibre et la recherche d'accord. Et quand vous êtes habitué à travailler ou à échanger avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous, qui ne travaillent pas comme vous, ça vous facilite la possibilité de conclure des accords et de mettre en place de nouvelles séries de dispositions. Voilà pour la Grande Loge Mixte de France. Si vous le permettez, je vais m'exprimer brièvement sur la question posée.
Bien sûr. Ce que j'allais vous demander.
Alors, je pense que je ne vais pas faire non plus d'exception. Évidemment, pour moi, c'est une vision d'avenir. Et c'est une vision d'avenir à tous les titres, en réalité. Si vous regardez, si vous reprenez, je prends toujours cette illustration, les dialogues maçonniques de Lessing, qui ont été écrits à la fin du XVIIIe siècle, vous verrez que les problématiques sont exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas Lessing qui serait anachronique aujourd'hui, c'est qu'il était moderne à l'époque. Qu'est-ce qu'il nous disait en gros, Lessing ? Il nous disait « la société divise et la franc-maçonnerie rassemble ». Eh bien, si aller à la rencontre de toutes les humanités, de toute l'histoire de l'humanité, de toutes les philosophies de l'humanité, c'est de l'anachronisme. Alors oui, nous sommes anachroniques. Pour autant, je le rappelle, que l'humanité, elle est plus composée de morts que de vivants. Et c'est à la rencontre de cette humanité que nous avons l'ambition d'aller. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? La franc-maçonnerie, elle établit des relations, des liens. Pas seulement des liens entre les hommes et les femmes, mais aussi des liens entre des choses qui se laissent voir difficilement, et d'autres choses comme des symboles qui prennent une forme concrète. C'est également la franc-maçonnerie voir qu'il y a différentes voies dans la connaissance, qu'il n'y a pas qu'une connaissance scientifique, qu'il n'y a pas qu'une connaissance artistique, il y a aussi une connaissance philosophique, poétique, l'allégorie, l'analogie. C'est-à-dire que vous pourrez embrasser le réel de différentes façons par la voie de différents systèmes interprétatifs. Et au fond, ce qui est en jeu, encore une fois, c'est de trouver un accord. Et c'est peut-être la plus grande difficulté. Accord qui commence d'ailleurs en soi. Accord entre la quête, le désir d'être soi, et un ordre des choses extérieures qui est sans cesse recomposé.
Ça, ce sont des débats à l'intérieur de vos loges et de votre obédience.
Nous assignons, il y a même une expression dans ce sens, aucune limite dans la recherche de la vérité. Et une des définitions possibles de la vérité, c'est de se dire que c'est une représentation commune des hommes, et qu'il n'y a pas de vérité définitive. Donc échanger nos représentations, notamment à travers ce qu'on appelle les rituels, c'est ce qui nous permet de construire aussi notre vérité. Et pour la construire, il faut qu'il y ait une diversité. Face aux chapes de plomb que constituent nos métiers, nos contingences, nos histoires, toutes nos singularités, on a tendance à survaloriser notre propre expérience. Et bien en la confrontant, en mettant déjà à l'épreuve notre pensée, et puis en confrontant tout cela avec les autres, alors nous aurons une chance de rencontrer une autre perspective, déjà en mettant à mal nos préjugés. Parce que c'est ça l'enjeu, hein. C'est se défaire de nos préjugés. Et se défaire de nos préjugés, et j'ai beaucoup aimé les interventions précédentes, parce que l'enjeu aussi, c'est de construire une conscience citoyenne. La démocratie, c'est pas que le vote. La démocratie, c'est de dire, je ne serai esclave ni des choses, ni des autres, et surtout, ni de moi-même. Parce que peut-être que les plus grandes victoires sont des victoires sur soi. Et tout cela, c'est le travail du maçon. Donc oui, le maçon, c'est une société, la maçonnerie est une vision d'avenir, évidemment. Alors, on nous dit, oui, mais concrètement, parce qu'on va me dire encore, il y a des mots, tout a été dit. Alain avait une formule pour cela, il disait, l'important, ce n'est pas d'avoir une idée, c'est de les avoir toutes. La franc-maçonnerie ne va pas révolutionner la société en mettant en place ou en rédigeant même une loi sur, la bioéthique, par exemple. D'abord parce que ce n'est pas son rôle. Je ne pense pas que la maçonnerie ait vocation à structurer la société. C'est la République, l'accord de tous les citoyens qui structure la société, et pas la maçonnerie, aussi belle et grande soit-elle. Donc la maçonnerie nous apporte les outils qui permettront d'être effectivement de bons citoyens, je crois. Alors, par rapport à tout ça, c'est un petit peu de rêve, effectivement. Le rêve, c'est beaucoup pour agir, mais ce n'est pas toujours suffisant pour réussir. Mais cette assignation au concret qu'on faisait déjà à Socrate et déjà à Condorcet, oui, agir, oui, mais penser en même temps. Penser, c'est déjà aussi commencer à agir, quelque part. Voilà en quoi, schématiquement, mais on peut y revenir, c'est une vision d'avenir.
Est-ce que la taille d'une obédience comme la vôtre, qui est petite taille, c'est pas péjoratif, est-ce que ça vous donne plus de... comment dirais-je, plus de souplesse, plus d'agilité que d'autres obédiences qui sont plus mastodontes. Est-ce que vous remuez plus facilement, si je peux dire?
Non, je ne pense pas. Ça aussi, ça pourrait être une forme de préjugé. D'abord parce que nos loges sont complètement souveraines. On a une expression qui nous rassemble, hein, au-delà de chaque obédience, c'est des maçons libres dans des loges libres. Donc, effectivement... l'assignation ne part pas d'en haut. C'est pas d'en haut qu'on va définir quelque chose. Quel est le rôle d'une instance obédientielle? Ça aussi, c'est une question. Le rôle, c'est d'être un catalyseur au milieu des loges. De permettre aux loges de communiquer, d'échanger, de travailler, mais de travailler librement, comme elles l'entendent. Donc, ça nous donne effectivement une forme de souplesse, mais pour autant, on ne délivre aucune forme d'injonction à nos loges et à nos membres. C'est la liberté absolue de conscience. Et liberté absolue de conscience, parce que c'est ce qui rend tout le reste possible. Toutes les libertés et toutes les possibilités. Donc, la laïcité et la mixité sont des expressions de cette liberté, sont les gages de cette liberté. C'est pour ça aussi qu'on les défend. Mais la liberté absolue de conscience, c'est la première de toutes les libertés.
Merci Édouard Abrant. Martine Elbach est grande maîtresse adjointe de la Grande Loge Féminine de